Bonjour et bienvenue à Dive In With Me, une émission de la Fondation Aimée dans laquelle nous parlons des bienfaits de la musique dans toutes les différentes langues du pays. Merci à Radio Ara de nous donner l'opportunité de présenter les différents avantages de la musique sur leurs ondes. Aujourd'hui, nous rencontrons Emmanuel Bigon et Barbara Tillman qui ont coécrit le livre La Symphonie Neuronale, dans lequel ils démontrent la nécessité de la musique pour notre cerveau. Emmanuel Bigon, après avoir été musicien d'orchestre, est devenu professeur de psychologie cognitive, membre de l'Institut universitaire de France, rattaché à Dijon, au laboratoire CNRS de l'apprentissage et du développement, spécialisé dans l'étude des processus cognitifs impliqués dans la perception de la musique. Barbara Tillman est directrice de recherche au CNRS à Lyon. Ses travaux ont contribué à révéler le rôle bénéfique de la musique dans le traitement de certains troubles cognitifs. Bonjour, ravie que vous soyez là aujourd'hui avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous en arrivons directement à la première rubrique qui est le sound check-in. Nous demandons à tous nos invités leur musique favorite du moment, qui peut être un orchestre, un opéra, une chanson, un style, illustré ensuite par une musique que nous ferons écouter à nos auditeurs. Alors quelle est votre musique du moment?
Alors, on a discuté de ça avant et on a choisi deux types de musique bien différents. Et donc, je te laisse présenter.
Donc, une musique, c'est un arrangement d'un slow qui est très connu des Rolling Stones qui s'appelle Angie, mais que nous avons arrangé en quatuor à cordes simplement pour faire un hommage un peu aux musiques populaires, une sorte d'hommage des musiciens classiques aux musiques populaires qui sont si importantes pour nous. Et toi, pour le deuxième?
Et puis le deuxième, c'est un jeune groupe montant, disons. Je te laisse.
Donc, c'est un deuxième morceau. C'est un groupe qui s'appelle Panache, qui vit à Paris. C'est de l'électropop. Et c'est intéressant parce qu'il mélange les langues dans la chanson. Et donc, on sait que le mélange de langues est quelque chose de très stimulant pour le cerveau. Donc, voilà, c'était une petite. Et c'est un style de musique complètement différent.
D'accord, très bien. Alors nous allons tout de suite en écouter des extraits.
Je crois que je pleure, je sais pas pourquoi.
Nous en arrivons maintenant à la rubrique Benefits of Music, dans laquelle nous allons parler plus concrètement de vos recherches que vous condensez dans le livre La Symphonie Neuronale, pourquoi la musique est indispensable au cerveau, publié en 2020 aux éditions Human Science. Alors, quelle a été la genèse de ces recherches? Comment est venue l'idée? Et ensuite, comment avez-vous construit cela?
Alors, le livre essaie de retracer un peu le développement du domaine, c'est-à-dire que les sciences cognitives et puis les neurosciences cognitives sont intéressées à comment le cerveau traite la musique, donc surtout en perception, mais aussi en production. Et puis, avec les connaissances de la recherche fondamentale, on a découvert que ça stimule le cerveau dans sa globalité, donc d'où le titre « La symphonie neuronale ». Et ça a amené à tout un nouveau pan de recherche qui s'intéresse à étudier comment on peut utiliser la musique pour stimuler le cerveau. Donc, dans sa perception, les traitements cognitifs, la motricité, voire la régulation des émotions. Et dans les livres, on retrace les deux, mais en le déroulant sur le développement sur le lifespan du bébé jusqu'à la personne âgée, soit dans le cerveau sain, soit dans le cerveau pathologique.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous entendez par musique au départ dans ce livre? Est-ce que c'est tout type de son? Est-ce que c'est un style particulier? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot?
C'est une bonne question. La musique, c'est toutes les communications non verbales, musicales, si vous voulez, que l'être humain fait pour d'autres êtres humains. Donc, ça peut être très varié dans l'expression et c'est certainement pas conditionné à un seul style. Mais dès le moment où on a une communication qui est non symbolique, c'est-à-dire qui n'utilise pas le langage et qui est adressée clairement aux autres, sous des formes mélodiques ou rythmiques, on va appeler ça de la musique. Donc, des batucadas brésiliennes, c'est clairement de la musique, même de la musique concrète. Hein, dans la musique contemporaine, il y avait la musique concrète de Schaeffer. C'est aussi de la musique, même si on l'a fait avec des objets. C'est l'intention finalement de communiquer qui porte, qui est associé au nom, au mot de musique.
D'accord. Dans votre livre, vous parlez donc des enfants et des bienfaits dès même le fœtus dans le ventre, des bienfaits de la musique. Comment ça peut influencer dès cet âge-là et ensuite en évoluant?
Alors ça, c'est sans doute les découvertes les plus surprenantes, parce qu'on pense souvent que la musique est un objet de culture, un objet d'art, donc une création qui est faite par des adultes, plutôt pour des adultes. Et si c'était le cas, des bébés qui sont à peine nés, ou voire qui ne sont pas encore nés, comme le cas des grands prématurés, par exemple, n'auraient aucune raison d'être sensibles à la musique et n'auraient pas non plus les outils cognitifs pour décrypter cette musique. Le fait que des grands prématurés ou des tout jeunes bébés répondent de façon très significative à la musique et d'une certaine façon plus à la musique qu'au langage est un indicateur que la musique a des racines biologiques, elle est essentielle pour la construction de notre cerveau, mais aussi de notre personnalité et de notre inscription sociale. Donc la musique est beaucoup plus qu'une œuvre d'art, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour la construction de l'humanité. Et ça se voit parce que le bébé, même avant la naissance, y répond de façon extrêmement précise.
D'accord. Donc, vous avez dit que ça pouvait construire la personnalité, c'est-à-dire que selon le style de musique qu'écouterait un bébé, ça pourrait ensuite forger un caractère?
Non, sans doute pas cela, mais pour rester sur des choses plus fondamentales, l'équipe de Genève en Suisse a montré que les grands prématurés, par exemple, ont une immaturité de certains faisceaux qui relient les zones cognitives aux zones émotionnelles, alors que le bébé à terme a ces faisceaux qui sont beaucoup plus intègres. Et ils ont montré que si on écoute 8 minutes, on fait écouter 8 minutes de musique à ces grands prématurés, ça va finaliser ces faisceaux chez les grands prématurés qui vont être identiques à ceux des bébés à terme. Et la conséquence qu'on comportemental, c'est que ces grands prématurés auront un contrôle émotionnel du même type que les bébés nés à terme, mais ceux qui n'ont pas entendu la musique ne l'ont pas. Donc c'est pas le style de musique, si vous voulez, mais c'est vraiment la musique qui contribue à développer des relations entre, je vais dire rapidement, cognition et émotion, et ça c'est dès avant la naissance même.
D'accord.
Et maintenant, on essaye de l'étendre aussi à la rythmicité, le rythme qui est dans la musique et qui guide l'attention et qui aide à analyser les signaux sonores de l'environnement, donc la parole, les interactions, etc. Et donc aussi voir en combien on peut utiliser une stimulation rythmique pour le bébé prématuré afin de l'aider à compenser le manque de la rythmicité dans son environnement, dans la cuveuse, pour bénéficier au développement. Donc ça, c'est des recherches en cours et on espère de trouver évidemment des effets bénéfiques sur cette base.
D'accord. Parce que donc globalement, la musique, quand on entend, ça génère une réponse par le système cognitif. Qu'est-ce qu'on observe principalement? Dans quelle zone c'est plus stimulé en général? Est-ce que ça dépend de l'âge ou du style, etc.?
Peut-être on peut déjà répondre de façon générale. Quand on écoute la musique, ce n'est pas seulement le cortex auditif qui traite l'information sonore, l'information musicale, mais ce cortex auditif, il est en interaction avec le cortex frontal pour traiter les structures, pour mémoriser, pour anticiper, pour faire les prédictions. Il est aussi en interaction avec le cortex moteur pour faire les prédictions temporelles, pour quand est-ce qu'un prochain événement va arriver. Il y a l'interaction, Emmanuel l'a mentionné tout à l'heure, avec le système émotionnel. La musique est capable aussi d'activer le système de la récompense qu'on a observé auparavant, surtout pour les stimuli biologiquement relevants. La musique peut l'activer également. Donc, vous voyez déjà avec ces quelques structures que je nommais, que la musique active tout un réseau neuronal qui est en interaction et qui permet de traiter la musique et d'entraîner aussi le cerveau aux différents processus, aux mécanismes qui sont nécessaires.
Pour faire toutes ces expériences et toutes ces découvertes, quel type de d'expérimentation vous avez mené? Comment vous avez trouvé cela?
Il y a différents types d'expérimentation. Il y a, je peux dire un premier type, puis c'est les expérimentations comportementales, c'est ce que font les psychologues, c'est-à-dire, par exemple, pour rester sur les bébés dont on parlait tout à l'heure, les grands prématurés, lorsqu'on fait écouter de la musique à ces grands prématurés, il y a des changements corporels, il y a des changements de comportement, des mouvements de succion, par exemple, d'élèves qui montrent que le grand prématuré répond de façon significative à la musique. On peut aussi voir des modifications physiologiques du rythme cardiaque et de la respiration. Donc ça, ce sont des comportements que nous utilisons comme des indices qui permettent d'analyser ce à quoi est sensible le bébé, par exemple. Donc ensuite, on peut, chez des enfants plus grands, avoir d'autres mesures comportementales où on regarde, en fait, une fois que le stimulus est traité, le comportement de la personne qui l'a entendu change et on analyse ce changement. Maintenant, on peut aussi regarder l'organe cerveau qui traite la musique. Donc Barbara est plus spécialiste de ces études-là parce qu'elle a travaillé sur le cerveau, donc je lui laisse la parole pour qu'elle vous l'explique.
Et là aussi, il y a différents types de méthodologies. On peut mesurer l'activité électrique des neurones, donc avec un EEG, comme des personnes de votre auditoire ont peut-être déjà vu ou eu. Donc, ça mesure en résolution très fine combien vite le cerveau réagit à une stimulation sonore. Et avec des analyses de modélisation, on peut aussi retrouver d'où dans le cerveau, à l'intérieur du cerveau, vient l'activation, le changement que le cerveau a subi. Et après, de l'imagerie cérébrale, comme par exemple la résonance magnétique, où on peut directement observer les régions cérébrales qui sont impliquées dans le traitement. Donc, c'est des images que on peut voir des fois dans des rapports journaux grand public, où vous voyez le cerveau en grisé avec des taches de couleur. Et donc, du coup, c'est là où on voit que le cerveau apporte plus de sang pour avoir plus d'oxygène pour faire travailler ces zones particulièrement. Et donc, du coup, les personnes sont dans le scanner d'IRM et avec des séquences d'acquisition spécifiques, on peut mesurer quelle région dans le cerveau est particulièrement active quand on écoute telle ou telle musique ou tel ou tel enchaînement surprenant de la musique par rapport à quelque chose qui est plus attendu, etc.
Et ces stimulations du cerveau, elles le font travailler d'une certaine manière. Est-ce que ça a des propriétés, on va dire, médicales ou aujourd'hui on parle beaucoup de thérapie aussi. Est-ce que ça pourrait être grâce à ces stimulations?
Oui, bien sûr, il y a toute une des applications de thérapeutiques, des effets que la musique peut avoir sur le cerveau. Pour donner un exemple très simple, peut-être un peu trop schématique, mais vos auditeurs comprendront. La maladie de Parkinson, on sait que c'est un défaut de dopamine qui contribue, en tout cas, à l'expression de cette pathologie. Et on sait que la musique, lorsqu'elle est plaisante, va pouvoir sécréter de la dopamine. Donc le système limbique dont Barbara parlait tout à l'heure va sécréter de la dopamine. Donc en fait, on peut montrer, il y a des études qui le montrent de façon tout à fait remarquable, que un patient parkinsonien qui voudrait commencer à faire un mouvement n'a pas les capacités de le faire, mais si on lui fait entendre de la musique, ça va l'aider à réaliser ce mouvement et à entretenir le mouvement ensuite dans toute sa durée. Donc la musique joue un rôle de stimulant en quelque sorte. Et donc là, c'est un atout pour accompagner une thérapie d'une maladie neurodégénérative comme la maladie de Parkinson. On pourrait dire la même chose pour la maladie d'Alzheimer et pour les aphasies, pour la rééducation des patients aphasiques par exemple.
Et on peut aussi donner des exemples pour les enfants. Par exemple, les enfants dyslexiques, la recherche fondamentale dont je parlais tout à l'heure a pu montrer que ces enfants, ils ont pas seulement des difficultés pour le traitement du langage, mais aussi de traiter le rythme ou des informations temporelles, même si c'est pas du langage. Donc ça, c'est un premier constat. Et puis, donc, du coup, vous voyez où je vais en revenir, c'est d'essayer de prendre un entraînement musico-rythmique, donc qui se base pas sur le langage, mais sur une stimulation des jeux musicaux, pour stimuler les mécanismes sous-jacents afin d'aider à la difficulté principale de la dyslexie, donc autour du langage. Et il y a des recherches qui ont déjà montré des résultats très encourageants à plus long terme avec les mêmes enfants que après un certain nombre de mois, les enfants ont plus évolué dans leur conscience phonologique, dans leur capacité de lecture grâce à cet entraînement musico-rythmique qui, du coup, on pourrait imaginer, si les recherches continuent à renforcer ces conclusions, on pourrait imaginer de le combiné avec des interventions d'orthophonie normale et donc avec les deux mains dans la main pour être plus efficace pour aider les enfants.
D'accord. Et ces bienfaits-là, c'est peu importe, on pourrait dire une prédisposition ou une affinité avec la musique. Ça fonctionne pour tout le monde de la même manière.
Alors, ça fonctionne pour tout le monde. Il faut quand même mettre des bémols. Par exemple, chez les patients parkinsoniens, et ça c'est important de le dire, c'est pas un remède miracle. La musique, c'est pas tous les patients n'y sont pas répondant de la même façon. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà extraordinaire. On évalue à peu près 25% des patients parkinsoniens qui sont répondants à la musique. Mais c'est déjà beaucoup, hein? Et quand on est confronté à des pathologies aussi importantes. De la même façon, lorsqu'on fait des sessions avec des patients Alzheimer, tous les patients Alzheimer ne réagissent pas de la même façon. Mais c'est déjà bien que on en ait la moitié, par exemple, sur un groupe de 10 qui participent activement, qui puissent bénéficier de ces effets de la musique. Donc, ce n'est pas du tout des effets systématiques, il ne faut pas du tout créer de fausses interprétations. Mais déjà, les effets qu'on observe sont tout à fait remarquables pour des thérapies qui sont, enfin, pour des approches médicales, on va dire, qui sont non-invasives, où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'électrodes dans le cerveau, etc.
Et pour des personnes qui n'auraient pas de maladie, par exemple des personnes lambda, on va dire, quels sont les bienfaits de la musique sur le cerveau?
Alors, il y en a un qui est très important sur le plan social, c'est le vieillissement cognitif. On est tous confrontés à cette problématique-là, d'autant plus qu'on a une génération de baby-boom qui devient le papy-boom, comme vous savez. Et on montre que la musique aide, améliore le vieillissement du cerveau. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce que ça veut dire que des gens qui se mettraient même à faire tard de la musique pourraient ralentir en quelque sorte les effets négatifs du cerveau, même s'ils ne sont pas du tout malades. Et donc là, il y a des études très encourageantes de ce point de vue-là. Puis de l'autre côté de la vie, je laisse Barbara en parler, il y a tous les effets positifs de la musique sur l'éducation.
Oui, donc chez les enfants, pour soutenir le développement cognitif et social des enfants au l'âge scolaire, souvent les études, c'est l'âge de l'école primaire qui ont été faites pour montrer qu'une activité musicale par rapport à d'autres activités peuvent soutenir le développement cognitif de l'enfant. Et également, en fonction des écoles qui ont été testées, les compétences, les relations sociales, les interactions sociales des enfants. Il y a même des études chez les tout petits, en comparant même écouter juste la musique ou faire de la musique à 6 mois, pendant une période de 6 mois. Les enfants qui ont fait activement la musique pendant 6 mois, à 12 mois, quand on les reteste après, on a pu voir qu'ils ont plus avancé dans le développement pour les précurseurs du langage, l'attention partagée, de pointer vers des objets, etc., que les enfants de l'autre groupe. Donc, il y a plusieurs éléments à différents moments de la vie qui peuvent montrer que la stimulation par la musique, soit l'écoute, soit en faisant de la musique, peut avoir des bénéfices aussi sur le cerveau à développement typique ou le cerveau sain.
Et est-ce qu'il y a une différence entre jouer et écouter de la musique dans ce cas-là?
Alors, ce qui a été montré, c'est que l'écoute suffit déjà. Par exemple, chez des patients qui ont été victimes d'un AVC, l'équipe finlandaise a montré que si on leur fait écouter 2 heures de musique par jour, on a déjà des bénéfices, des effets de plasticité cérébrale sur la récupération de nombreuses fonctions cognitives plus importantes que s'ils écoutent du langage ou s'ils font de la rééducation normale. Donc, l'écoute, ça suffit pour créer cette plasticité. Mais bien sûr, plus vous engagez le cerveau, plus vous lui demandez des ressources, des coordinations motrices, etc. Et plus la symphonie neuronale, pour reprendre le titre de notre ouvrage, va être grande et plus les effets seront forts.
On parle aussi beaucoup de la musique comme calmant, comme au contraire effet motivation ou autre. Sur les émotions, ça a un effet également par ces stimulations.
Oui, alors ça, c'est peut-être une des fonctions principales, même dans l'évolution de l'espèce, de la musique, c'est de la régulation des émotions. La régulation des émotions, chez l'adulte, la problématique est grande lorsqu'on a des émotions fortes, qu'on est confronté à des situations difficiles comme le Covid, comme on a pu le voir. Vous avez vu, les Italiens sont sortis en premier pour chanter sur les balcons. Et maintenant, quand on fait des études sur la façon dont les gens ont fait face au Covid, c'est la musique qui est le meilleur refuge. Mais chez le bébé, C'est essentiel. C'est-à-dire que la régulation des émotions est vitale. Si le bébé vit des émotions très contrastées et qui, comme il n'a pas les moyens de réguler ses émotions, il risque de perdre toute son énergie de développement pour essayer de se battre contre des émotions qu'il ne peut pas réguler. Donc la régulation des émotions est essentielle et on pense que c'est peut-être même une des raisons d'être de la musique, c'est que ça a permis de réguler les émotions des tout jeunes bébés et d'assurer un meilleur développement, une survie. Et pour une espèce qui ne fait pas beaucoup de bébés et qui fait des bébés très fragiles, bah c'était quelque chose de tout à fait important.
Okay. Et on parle aujourd'hui de, enfin pas forcément aujourd'hui, mais de l'effet Mozart, qui dit de manière très grossière qu'écouter de la musique rendrait plus intelligent ou permettrait de meilleures capacités. Et donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord ou...
Alors, la première étude qui a amené à ce phénomène effet Mozart, c'était dans les années 90 à peu près, était vraiment focalisée sur Mozart, mais l'effet même n'était pas répliqué tel quel à travers d'autres études, mais cette étude a eu le bénéfice de stimuler tout un domaine de recherche pour montrer, par exemple, ce qui compte vraiment dans ces effets-là, c'est de avoir un effet émotionnel. On vient d'en parler, augmentation d'éveil par la musique, qu'on aime bien la musique, ça change l'humeur et donc du coup, ça peut avoir un effet sur les activités cognitives qu'on fait après. Il y a un chercheur qui l'a fait aussi avec des petites chansons pour enfants japonaises parce qu'il les aime bien. Ou de la musique pop music blur parce que c'était la population cible des expériences, c'était des jeunes en Angleterre pour montrer que c'est pas Mozart en lui-même qui a créé quelque chose de spécifique qui fait que ça change le traitement cognitif, mais c'est plutôt qu'est-ce que la musique représente pour la personne, l'effet qu'elle a, et donc ça peut être n'importe quel style de musique. Et donc ça, c'est vraiment des effets à vraiment très court terme. Et puis, on a parlé tout à l'heure, quand c'est de la musique à plus long terme, à travers des semaines, des mois, etc. Donc, il y a aussi les effets bénéfiques. Donc, je dirais que ces premières études qui ont, comment dire, imprégné cette notion d'effet Mozart, telle qu'elle, plus personne ne voudrait le défendre, mais ça a eu le bénéfice de stimuler toutes ces différentes recherches pour le comprendre mieux et pour l'étendre plus largement.
Et par exemple, on a certaines personnes qui sont malentendantes ou sourdes et qui donc perçoivent la musique principalement par les vibrations. Est-ce que dans ce cas-là, on perd un petit peu de ses bienfaits ou est-ce qu'on conserve quand même une partie des effets de la musique sans le son?
Alors forcément, on perd ses effets. Peut-être ce qui est le plus remarquable, c'est l'appétence que ces personnes ont pour la musique. C'est-à-dire que même malgré toute l'information spectrale qui est perdue parce qu'il y a une déficience sensorielle, il y a une fascination pour les vibrations. Et pour avoir travaillé avec les personnes malentendantes, elles veulent faire de la musique, elles capturent quelque chose et elles arrivent très bien à partager avec nous des éléments de cette expérience. Mais évidemment, on peut difficilement imaginer qu'on a des effets comparables. Ceci étant, lorsqu'on fait de la rééducation des enfants sourds, qui viennent d'être appareillés, on se rend compte que c'est en les faisant travailler sur de la musique, on peut leur faire faire plus de progrès sur le langage que en leur faisant faire de la rééducation orthophonique traditionnelle. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a une dimension motivationnelle, ludique dans la musique. Il n'y a pas d'erreur. On fait de la musique. On peut aimer ou pas aimer, mais alors qu'en dans le langage, le français ou d'autres langues, bien sûr, il y a des erreurs. Et ça change beaucoup la façon dont l'enfant va s'approprier son domaine, le domaine auditif. Donc, dans des cas particuliers, ça ne sera pas les mêmes effets que chez la personne qui entend normalement, mais on aura quand même des effets positifs qui peuvent aider à la prise en charge de ces enfants.
Et donc vous avez dit qu'il n'y avait pas d'erreur dans la musique, donc vous parlez seulement de la musique en tant que son, on va dire. Et donc par exemple une personne qui va avoir fait du conservatoire ou du solfège, etc., une formation, est-ce que ça change quelque chose dans la perception de la musique, d'avoir une connaissance plus théorique dessus, ou est-ce que c'est simplement le fait de recevoir la musique comme son, peu importe l'éducation, qui a des bienfaits?
Je pense on peut répondre dans l'autre sens, au lieu de focaliser sur le musicien, de focaliser sur celui qui n'a pas eu cette formation explicite. Et il y a tout un ensemble de recherches qui ont pu montrer que le non-musicien, il a accumulé, grâce à l'exposition à la musique, dans la vie de tous les jours, elle a accumulé tout un ensemble de connaissances sur le système musical de sa culture qui lui permettent de comprendre les structures musicales, d'anticiper ce qui va venir, même s'il n'est pas forcément conscient de ces structures que son cerveau est traité. Mais on, par la recherche, on peut le montrer. Et donc, du coup, des fois, on dit qu'un non-musicien est face à la musique comme un enfant face à sa langue maternelle. Avant d'aller à l'école, bien sûr, pour faire des cours de grammaire, etc., il peut détecter des anomalies de structure musicale ou de langage, comme sans pour autant être capable de le nommer. Donc il y a toute une compétence musicale qui peut rester à un niveau implicite que le non-musicien est là, et pour la perception et même pour la production, pour le chant, qui sont souvent méconnus. Et donc ce n'est pas réservé uniquement au musicien, qui du coup évidemment a d'autres capacités grâce à sa formation, mais le non-musicien a tout un ensemble de bagages, si on dit comme ça, pour percevoir et même faire de la musique.
D'accord. Pour le musicien, quand il joue de la musique, est-ce qu'il a les mêmes effets que le non-musicien dans le sens où un musicien professionnel, par exemple, lui, on va dire que c'est plus seulement du plaisir, un loisir, c'est aussi son travail, donc ça change quelque chose dans la perception et les bienfaits de la musique?
Peut-être la meilleure façon de vous répondre, c'est de faire une comparaison entre quelqu'un qui n'a pas fait d'études de psycholinguistique ou de linguistique ou même de littérature et qui lirait un roman et quelqu'un qui a fait ses études et qui lit le même roman. Vous voyez, celui qui a fait des études va pouvoir avoir une description analytique très précise, etc. Mais au moment où il lit le roman, il va se laisser prendre par l'histoire du roman et les deux lecteurs vont être assez proches, même si l'expert va pouvoir avoir un discours différent. Etc. Donc, jusqu'à un certain point, les expériences sont comparables. Après, ce que l'on sait, c'est que l'apprentissage, s'il est mal fait, peut avoir des effets pervers, comme chez les sportifs. C'est-à-dire que le sportif, ben, si c'est trop entraîné, on sait qu'à 40 ans, ils ont un corps qui est cassé. Donc, on peut penser qu'un apprentissage musical qui serait mal conduit peut avoir des effets opposés aux effets bénéfiques que nous, on a plutôt tendance à décrire. Donc, il y a une vraie question là que vous posez, c'est-à-dire que l'apprentissage musical intensif peut aller conduire le musicien vers des effets qui sont contraires à ceux que la musique devrait avoir si l'apprentissage a été mal fait ou si le métier détruit en quelque sorte ses effets positifs. Donc c'est pas si rose que cela d'être musicien professionnel, contrairement à ce qu'on a envie de croire.
Bien sûr. Et plus globalement, la musique, est-ce qu'il y a un moment où les bienfaits vont être détruits? Si par exemple on en écoute à outrance, ou si au niveau du son, si on écoute trop fort, si on écoute seulement un style, etc. Est-ce que ça peut avoir, au bout d'un moment, ça peut perdre de ses vertus, ou est-ce que ça peut même devenir négatif?
Je pense que le plus négatif dans votre liste, c'est d'écouter trop fort et de détruire cet organe magnifique qui est l'oreille, qui apporte toute cette information musicale au cerveau. Et je pense que là, il y a vraiment un manque, un déficit dans la conscience générale et même les instances des salles de concert, etc., de faire comprendre à l'auditoire qu'il y a un danger d'écouter trop fort ou de façon prolongée, même avec les écouteurs de casque. Comme on apprend à un enfant de ne pas mettre les ciseaux dans les yeux, il faudra faire apprendre à un enfant qu'il ne faut pas écouter trop fort, trop longtemps, se mettre à côté des enceintes de façon prolongée parce que ça a des séquelles et qu'on ne peut pas réparer.
Et maintenant, il y a d'autres dangers qui sont mis en évidence. C'est la compression du signal que l'on a dans tous les supports numériques est dangereuse. Donc, Universal Music va même maintenant mettre un label, comme on a sur les aliments, pour savoir si le traitement du signal qui a été fait dans le disque est potentiellement nocif ou pas pour le cerveau. Donc ça, c'est un autre type de danger qui est indépendant de l'amplitude amplitude du son, mais qui est dépendant de la façon dont il a été compressé. Et un troisième type de danger, qui est l'enfermement dans un style, vous l'avez mentionné. Quelqu'un qui écouterait toujours la même musique, un adolescent par exemple, ou une personne âgée, qui écouterait toujours la même musique, une sorte de nostalgie morbide, évidemment, ça devient un enfermement, et là, la musique devient dangereuse. Donc, il faut faire attention. Nous, ce que nous disons en tant que neuroscientifiques, c'est que la musique a du pouvoir sur le cerveau. On l'étudie dans les situations où ce pouvoir est positif pour des raisons éthiques, mais ce pouvoir pourrait aussi être utilisé ou se retourner de façon presque aussi violente, négativement, contre la personne. Donc, écouter de la musique, en général, ça a des effets très positifs, mais il faut juste vérifier qu'on n'est pas dans des situations un peu de détournement, de situations un peu de dévoiement, en fait, de la fonction initiale de la musique. Et comme vous le savez, on a utilisé la musique pour torturer les prisonniers à Guantanamo, par exemple. Donc là, beaucoup de musiciens se sont élevés contre cela. Et évidemment, la musique peut être utilisée de façon néfaste.
Bon, à éviter. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer l'épisode?
Un dernier mot pour clôturer l'épisode, plus qu'un mot.
Vous êtes libre d'en faire autant que vous voulez.
Non, peut-être que dire que ce qui est important, pour revenir à la première question, ce qui est important, qu'est-ce que c'est que de faire de la musique? C'est de communiquer avec l'autre. Parfois, on a des mamans qui nous disent, je chante faux, est-ce que je peux chanter avec mon enfant? Et on a envie de leur dire, mais vous l'aimez juste, votre enfant, donc chantez-lui quelque chose, parce que même si le son est faux, l'intention est juste. Et je pense que ça, dans notre société occidentale, on est tellement axé sur la performance qu'on a l'impression qu'il faut performer bien pour pouvoir avoir le droit de jouer. Mais c'est pas ça, il faut communiquer. Et de la même façon, lorsqu'on parle, on ne parle pas forcément un langage très élaboré, mais on communique. Et c'est ça qui est important. Donc la musique, c'est avant tout, un objet de communication avec les autres.
Et peut-être on peut ajouter que des fois, dire qu'on chante faux est plus un manque de confiance que combien on chante vraiment faux, parce qu'il y a des recherches qui ont montré que le non-musicien, il chante plus juste qu'on pense ou que lui, il pensait. Et donc c'est intéressant en complément de chanter au bébé ou à d'autres.
Donc le mot de la fin, c'est tout le monde à la musique maintenant.
Parfait. À la Fondation, on approuve. On arrive à la fin de l'épisode et on termine toujours par une recommandation. Est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez un conseil, une recommandation, que ce soit à lire, à voir ou à écouter?
Il y a un film que Arte a fait récemment sur le pouvoir de la musique, un documentaire qui résume un peu sous l'angle développemental les recherches dont on a parlé aujourd'hui. Et sinon, pour les effets chez la personne âgée, il y a un documentaire assez impressionnant, c'est Alive Inside, qui montre combien la musique peut évoquer la mémoire autobiographique préservée des personnes qui ont perdu toute autre forme de mémoire ou d'identité.
Et moi, je dirais explorer des styles nouveaux. Ce qu'il y a de merveilleux avec la musique, c'est qu'il y a des milliers de styles dans l'histoire et dans l'espace géographique des cultures. Et que ce qui est triste, c'est de rester sur le même style. Donc, c'est un objet de découverte et de développement de la curiosité qui est facile, qui est à la portée de tous. Et il faut pas avoir peur d'en abuser.
Parfait, merci. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Nous étions très contents de vous recevoir sur ce podcast.
Merci pour
Merci.
l'invitation.
Merci à tous nos deux auditeurs de nous avoir écoutés. Dive In With Me est une émission de la Fondation Aimé, soutenue par la Fondation André Loche. Merci à Radio Ara de nous permettre de diffuser cette émission et de nous soutenir dans cette aventure. Et merci à Taipan pour les magnifiques jingles. Vous pouvez réécouter Dive In With Me sur toutes les plateformes de streaming et une fois par mois sur les ondes de la Radio Ara. À bientôt.